Lisons ensemble dans Luc 12, à partir du verset 35. Alors, on avait fini au verset 34, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. » En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou à tous ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie arrive et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'agent et que l'agent ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras point, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. Prions. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour tes paroles, merci pour ton exemple pour nous. Ouvre nos cœurs, ouvre notre compréhension. Par ton Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Aide-nous à prendre ce texte et à chercher à savoir ce que tu veux nous dire, ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Sois glorifié ce matin, en ton nom nous prions. Amen. Être prêt. Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Ici, on est lié au texte précédent. Il dit plusieurs choses sur comment il faut vivre, dans ce qu'on a vu la semaine dernière, sur le fait d'avoir l'amour de l'argent, de vouloir gagner à tout prix de l'argent, ou l'idée de se faire du souci. Il a ses échanges avec les scribes et les pharisiens. Et ce texte est lié, et en fait, c'est en quelque sorte, c'est un peu comme s'il disait, plutôt que de mettre toute votre attention sur ce qui se passe sur terre, on a vu qu'il parlait de l'idée de se concentrer sur le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, quand on pense au royaume de Dieu, il y a un thème, il y a quelque chose qui est complètement lié à l'idée du royaume de Dieu, c'est que le roi revient. Le roi est parti en vacances ou est parti, on le voit plus, mais il revient. Et ce que les gens dans son royaume font, ce que ses serviteurs font dans son royaume pendant son absence, quand il revient, il y aura des conséquences, il y aura de l'honneur à ceux qui ont bien fait, du déshonneur pour ceux qui ont mal fait. Il y aura les imposteurs qui seront rejetés, etc., etc. Mais cette idée de royaume est très fortement liée au retour de Jésus. Et en tant que chrétien, c'est quelque chose qui, bizarrement, est un thème majeur. Bizarrement, je le dis parce qu'on se dit que ça fait 2000 ans et qu'on attend encore. On se dit que ça commence à, on se dit qu'on a le temps, on va en parler. Mais, alors ça dépend un petit peu comment on compte. Mais dans le Nouveau Testament, suivant les décomptes que j'ai vus, ils disent qu'entre 1 sur, c'est à peu près 1 sur 25 ou 1 sur 30. Les versets dans le Nouveau Testament, il y en a 1 sur 25 qui parle du retour de Jésus ou qui fait référence d'une manière ou d'une autre. C'est un thème majeur. C'est difficile, on va voir les exemples des serviteurs. Et pour moi, des fois, je me dis, c'est difficile de se dire que Jésus revient. On se dit, je sais pas si vous avez déjà été à à l'église quand on parle de prophétie ou de la fin des temps, de ces choses-là. Peut-être à des conférences, on se focalise sur la fin des temps dans certaines conférences. Les gens essaient de dire, la Russie, c'est tel truc, les États-Unis, c'est ça qui se passe, Israël. Et moi, j'ai toujours en moi cette petite voix qui me dit, dans les années 70, Chuck Smith, il disait que c'est peut-être maintenant, quoi. Et puis, on y est encore. Et j'ai ce doute. Et Jésus veut qu'on vive en étant prêt pour son retour, qu'il revienne cette semaine ou qu'il revienne dans 1000 ans. Et c'est un thème majeur. Je propose de lire quelques versets qui font référence. Marc 8, 38. « En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Cette idée de retour. Dans Marc 13, les versets 26 et 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisis. Dans Jean 14, 3, si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivantes qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans Apocalypse 1, 7, il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans Tite, chapitre 2, verset 11, car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc Jésus revient, le roi revient, et dans ce texte, on s'attarde sur l'idée d'être prêt pour ce retour. Être prêt, ça veut dire qu'on a eu les bonnes priorités. On a parlé du trésor, de nos cœurs, de est-ce qu'on investit dans le royaume de Dieu ou est-ce qu'on investit dans autre chose. En quelque sorte, pour ne pas se faire de soucis, pour ne pas tomber dans les problèmes qu'on a vu dans les textes précédents, la solution, c'est de se concentrer sur Jésus et son retour, de se dire, il faut que je me prépare. Si on se dit « il faut que je me prépare », les autres choses deviennent moins importantes. Quand vous partez en voyage, d'un coup, si vous dites « je pars demain matin, il faut que je fasse ma valise », est-ce que vous regardez le journal de 20h, puis le film à 21h, puis le film à 23h, et puis vous dormez, vous dites « bon, je le ferai demain ». Non, vous vous préparez. On se prépare. On a cette idée que quand il y a quelque chose qui va arriver, on se prépare. Et ça nous permet d'avoir la concentration juste. Ça nous évite de perdre notre temps avec les choses qui ne sont pas importantes. Ici, il parle d'être prêt avec la ceinture. Mettez une ceinture à vos reins. À l'époque, ils avaient les longues robes. Et quand il fallait qu'ils bougent rapidement, c'était problématique. On se prenait les pieds dans les robes. Donc, quand ils devaient travailler ou partir en bataille, ils retroussaient, ils le pliaient, ils le mettaient dans leur ceinture pour être prêts. Pour nous, c'est peut-être un petit peu l'idée de la volonté, d'avoir cette volonté de nous préparer. Ensuite, il y a l'idée de lampe, que nos lampes soient allumées. C'était un travail actif, il fallait vérifier que le niveau d'huile, qu'il y a encore de l'huile, il fallait tailler les mèches. C'était pas des lampes comme nous où on allume et puis on peut aller dormir et la lampe elle reste allumée. C'était une attente active. Ici, on pourrait se dire que peut-être l'idée de lampe, c'est l'idée de connaître la volonté, d'avoir la parole de Dieu, d'être éclairé, d'avoir notre chemin éclairé, d'être prêt. On peut avoir la volonté de se préparer pour Dieu et on peut quand même faire n'importe quoi. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? Regardons les bons serviteurs. Ils attendent leur maître et dès qu'il arrive, ils sont prêts à lui ouvrir. Ils ont leur travail qui est fini. Ils sont prêts. Comme je disais, c'est une attente active. Pourquoi vous pensez que le maître va servir les serviteurs? Je pense tout simplement parce qu'il en est tellement content qu'il a envie de les bénir. C'est une image forte là. On lit ça, on passe dessus. Un exemple. Imaginons que le président de la République rentre de voyage, il arrive à l'Élysée. Et là, c'est son personnel qui fait tellement bien son boulot, il se dit, les gars, vous me faites plaisir, mettez-vous à table, je vais vous faire à manger. C'est ça l'image. C'est, il se dit, les gars, vous avez tellement bien fait, bravo, j'ai envie de vous remercier, mettez-vous à table, on va faire la fête ensemble. C'est le banquet, c'est le festin. Jésus, il aimait manger avec ses disciples, il aimait la convivialité. C'est pas un maître distant qui arrive et l'image qu'on a des maîtres, c'est bon, d'accord, t'as fait ton boulot, tu peux y aller. Merci, hein. T'as fait ce qu'il fallait. C'est marrant, moi, cette image-là de se dire que le président qui ferait à manger pour ces gens, c'est pas comme le monde. Ça nous rappelle aussi dans Jean 13 le moment où Jésus sert les disciples en leur nettoyant les pieds. On pourrait dire ici qu'on a l'idée de est-ce qu'on est prêt pour l'éternité? Et si on est prêt pour l'éternité, Jésus nous dit qu'il y aura la fête, il y aura le banquet. Il y a plein de paraboles et d'exemples où l'éternité avec Jésus, l'idée c'est que c'est un banquet, une fête de mariage, les noces de l'agneau auxquelles nous sommes conviés et où on va faire la fête ensemble. Et donc ils font bien leur travail et ils sont heureux. Verset 39, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans la vie, combien de fois est-ce que vous vous dites, si je savais à l'avance ce qui allait se passer, j'aurais fait autre chose? Combien de fois vous vous dites, un accident, si je savais que ça allait arriver, ben j'aurais fait ça et ça. Si je savais j'en sais rien, mes enfants, qu'il allait leur arriver quelque chose, j'aurais fait autre chose. Si je savais que, si on savait à l'avance que, j'en sais rien moi, que même, il y a plein de films qui se basent sur cette idée-là. Un vieux film qui me vient à l'esprit, Retour vers le futur, je crois que c'est le 3, où il y a le gars qui récupère un journal de résultats sportifs et qui l'amène dans le passé. Et du coup, il connaît tous les résultats sportifs et il gagne de l'argent en pariant sur les matchs. Si vous saviez les cours en bourse, comment ils allaient évoluer, votre vie, elle serait pas pareille. Dieu nous dit, l'heure viendra et vous ne vous y attendrez pas, mais elle vient. C'est sûr. Vous pouvez parier dessus, vous pouvez investir dessus, vous pouvez prendre votre argent et investir dessus, et vous allez récupérer vous allez faire fructifier votre argent. Et souvent, quand on dit ça, c'est en fait une excuse. On dit oui, si je savais, je ferais ça. Des fois, c'est une excuse pour pas faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. Cette idée de voleur, c'est une image qui est reprise par les apôtres. Ils avaient bien compris quand Jésus leur en avait parlé. Il y a une multitude de passages, je les cite juste. 1 Thessaloniciens 5, dans 2 Pierre 3, dans Apocalypse 3, dans Apocalypse 16. Il y a d'autres passages, mais cette idée que le retour de Jésus va arriver et que personne ne va être au courant, que ça va être une surprise. C'est toujours gênant aussi de ne pas être prêt au moment où on est mis en lumière. Je sais pas si ça vous arrive, peut-être à l'école, le moment où le prof arrive et dit ce matin, je vais en appeler un au tableau ou j'en sais rien. Et là, t'es pas prêt, et c'est la panique. Il y avait, dans certaines des écoles bibliques de Calvary, il y avait le pasteur Dave Guzik, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais il avait un cours sur comment prêcher. Et ce cours, il se plaisait à prendre un élève au hasard à chaque fois. Et à lui donner un verset, à lui dire t'as 5 minutes et après tu vas enseigner 5 minutes dessus quoi. Et ce côté, quand on n'est pas prêt, on est gêné, on est embarrassé. C'est se retrouver devant Jésus et se dire qu'on n'est pas prêt, ça va être gênant. Simplement gênant, sans rentrer dans peut-être d'autres conséquences, ça va être embarrassant. Et pourtant, c'est une promesse qu'il nous fait, qu'il revient et qu'on doit être prêt, on doit se tenir prêt. Ces derniers temps, je faisais des recherches sur la guerre de 14-18 parce qu'on a eu des documents sur nos ancêtres corses qui sont morts. Et du coup, ça m'a passionné. Mais la guerre, ça implique d'être prêt tout le temps. Ça implique de pas, on s'endort pas. Il y a quelqu'un qui fait qui surveille la nuit pendant que les autres dorment, on tourne. Je sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand vous réfléchissez à ça, mais cette idée d'être prêt. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient quand on a la sagesse de dire je vais faire ce que je sais que je dois faire maintenant, c'est la sagesse. Procrastiner, c'est pas la sagesse de Dieu. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous êtes surpris par les gens, par les manières, les réactions, par même les nouvelles? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous avez lu la parole de Dieu pour voir ce qu'il dit à propos de l'homme? Il dit que nous sommes mauvais. Il dit que nous avons de mauvais cœurs. Est-ce que vous êtes surpris quand les gens se comporte et vous dites mais quoi, mais c'est pas pour dire qu'on doit les excuser, mais j'ai le sentiment que pour moi Jésus parfois me dit simplement mais Tu devrais savoir, tu devrais pas être surpris, tu devrais avoir cette connaissance sur la situation et la réalité spirituelle telle qu'elle est, sur le monde dans lequel nous vivons. On doit être prêt. Verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parole ou aussi à tous ? Pierre, le porte-parole, a l'impression qu'il a envie de dire, bon, ben, que ce soit pour tout le monde, quoi, pas juste pour nous, c'est un peu difficile. Le verset 42, Jésus répond, ou est-ce qu'il y répond, à votre avis ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il répond ? Quel est donc l'intendant fidèle et prudent ? Ici, il répond peut-être à Pierre en disant, vous êtes les disciples, vous allez être un petit peu responsables, c'est les serviteurs qui sont responsables des autres serviteurs, en quelque sorte. L'intendant, c'était un petit peu le chef en l'absence du maître, c'était le super serviteur, c'était le gars qui devait gérer en l'absence du maître, mais qui était quand même un serviteur ou un esclave. L'intendant fidèle, il est prudent, que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Il fait la volonté de Dieu, il fait la volonté de son maître. Est-ce que nous faisons ce que Jésus veut ? Est-ce que nous sommes fidèles avec ce qu'il nous demande ? S'il nous met des gens en dessous de nous, que ce soit des gens, pas des gens en dessous de nous, des gens qu'il nous demande de servir. Ça peut être dans la famille, ça peut être à l'église, ça peut être les enfants, ça peut être l'époux, l'épouse. Est-ce qu'on est fidèle avec ces choses ? On sait que, dans ce qui suit, je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Si on est fidèle avec peu de choses, on aura une récompense. Peut-être sur terre, peut-être au ciel, peut-être après. Parfois, on lit ça et on se dit, si je suis fidèle à passer le balai, ben, je finirai maître dans quelques années, je serai le boss ici. Je crois pas que ce soit forcément toujours, ça peut l'être, mais je crois que c'est pas forcément toujours le sens. Il y a aussi l'idée du royaume de Dieu et que c'est peut-être au ciel qu'il y aura des récompenses pour ceux qui auront été fidèles avec ce que Dieu leur a donné. Il fait le contraste avec le mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le mauvais serviteur, il traite mal les autres serviteurs, il s'adonne au plaisir de ce monde trop, se laisse intoxiquer avec l'alcool. C'est tout le contraire de ceux qu'on devrait montrer dans le comportement. On doit faire preuve d'amour, on doit être concentré spirituellement, et on doit faire preuve de contrôle de soi. Pour moi, parfois, pour les chrétiens, et malheureusement dans l'histoire, on voit qu'il y a plein d'exemples de mauvais serviteurs, de gens qui se sont dit, il viendra dans quelques années, j'aurai le temps de... Je vais faire ce que je veux. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce doute, pour certains, ils deviennent peut-être cyniques. Et Jésus, il met en garde ici. Il se dit que le maître ne revient pas. Jésus ne tarde pas. On lira 2 Pierre 3. Il ne tarde pas. Il veut qu'il y en ait plus qui soient sauvés. Il fait grâce. Il patiente le plus possible pour qu'il y en ait le plus qui soient sauvés. Mais il va revenir un moment. Et donc ce mauvais serviteur, il fait deux erreurs. Il se dit que le maître est absent. Dieu voit ce que nous faisons. On en a parlé dans les semaines précédentes. De qui a-t-on peur ? De Dieu qui voit tout ou des hommes qui ne voient que l'apparence ? Et il fait aussi l'erreur de se dire « il me reste beaucoup de temps ». On a vu la parabole avec l'homme qui se dit « j'ai plein de richesses, je vais me bâtir encore des trucs ». Et en fait, c'était fini, c'était trop tard. Nous n'en savons rien. Ce que je disais tout à l'heure, procrastiner, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et ma femme sait que je me le dis à moi, ça. Procrastiner, on remet au lendemain, on remet à plus tard ce qu'on sait qu'on doit faire maintenant. La volonté du maître. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître. Les scribes, les pharisiens connaissaient la volonté de Dieu. Ils avaient les textes, ils avaient la parole. Ils auraient dû savoir. Pour nous, parfois, chrétiens, on étudie la Bible, on vient ici le dimanche, on écoute. On doit savoir la volonté de Dieu. Et ici, la logique est très simple. Si vous dites à quelqu'un « ne fais pas ça » et qu'il le fait, la punition est différente que s'il y a quelqu'un qui vient et qui le fait sans qu'on lui ait rien dit. C'est enfantin comme logique. À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. On en a parlé là aussi. Il n'y a pas d'excuse, c'est très simple. On pourrait le dire pour nous. Je l'avais dit, on a la Bible, on a l'Évangile, on a l'histoire de l'Église, on a des livres, des commentaires innombrables, on a Internet, on a des ressources que peu de gens au cours de l'histoire ont eues. On a des enseignements, vous pouvez aller écouter des enseignements sur toute la Bible. On a cette responsabilité. Sans parler de peut-être le côté matériel ou simplement physique que nous vivons dans une richesse, même nous qui ne nous considérons pas forcément parmi les plus riches, on vit dans une richesse qu'il est simple de prouver. Ici, juste pour illustrer, s'il y a quelqu'un de riche, quelqu'un qui est élevé dans une bonne famille avec toutes les ressources du monde, on s'attend à ce que lui aussi, il réussisse en quelque sorte. Si la personne à qui il naît dans une famille, il est riche, il a les parents qui s'occupent de lui, il a une bonne école, il a une bonne éducation et il finit, j'en sais rien moi, dans la rue. Là, on a honte quoi pour lui. On se dit mais il a tout gâché quoi, il a gaspillé. Si quelqu'un qui naît dans un mauvais quartier n'arrive à rien, on se dit mais c'est normal. L'exception, ça aurait été qu'il réussisse à faire quelque chose. Mais la personne qui a beaucoup reçu, on en attend plus. Si vous voulez plus réfléchir là-dessus, il y a dans les enseignements précédents, vous pouvez réécouter. Par rapport à cette idée de retard, comment les gens patiente, je voulais lire 2 Pierre 3, si vous voulez vous y tourner avec moi. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris en toutes deux. Je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu et que par les mêmes causes, le monde alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Ça illustre très clairement le texte qu'on est en train de regarder. Il y a des gens qui viennent, qui se moquent, qui disent que ça ne va pas venir. Sans doute comme il y en avait qui se moquaient de Noé. On doit être prêt, ça doit être quelque chose d'actif. On doit être trouvé, occupé à nous préparer. Regardons verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Le verset là, la tournure est un peu bizarre. L'idée c'est, je suis venu mettre le feu et j'ai vraiment hâte que le feu soit démarré. J'ai vraiment envie que le feu soit allumé. C'est quoi ce feu, à votre avis? Le feu, c'est lié au jugement et c'est lié à l'idée du Saint-Esprit. Et c'est sans doute cet envoi du Saint-Esprit après sa mort et sa résurrection à la Pentecôte qui a une double valeur. Ça fait un petit peu ça va donner un jugement sur le peuple d'Israël qui ne va pas accepter l'œuvre du Saint-Esprit. Et à côté de ça, ça va être une puissance et la puissance qui va sanctifier les croyants et ceux qui acceptent l'œuvre du Saint-Esprit. Ça va amener la transmission du message de l'Évangile. Ça va amener plein de choses. Et Jésus, il a hâte que ce soit arrivé. Il a hâte que ces bonnes choses soient là. Le feu, ça purifie, mais ça fait mal aussi. Pour nous, pour ceux qui refusent, qui rejettent l'Esprit Saint, c'est l'idée d'enlever le mal, de brûler. Si on regarde un petit peu toute l'œuvre du Saint-Esprit, ça donne une bonne vision de pourquoi Jésus a envie que ces choses soient là. C'est le baptême avec le Saint-Esprit et le feu. On en parle dans Luc 3, 16. C'est Jean-Baptiste qui dit que Jésus va venir et lui va baptiser avec l'Esprit-Saint et le feu. Pour nous, ça amène la régénération spirituelle. C'est ça qui nous rend vivants spirituellement. C'est ce feu de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est le consolateur, l'Esprit de vérité qui vient vivre en nous, qui fait que nous ne sommes pas seuls. Ça nous scelle pour l'éternité. C'est un sceau que Jésus met sur nos cœurs. Il nous sanctifie, il nous aide à devenir plus saints, à être purifiés. Nos vies doivent être allumées par l'Esprit Saint. C'est ce baptême, c'est ce feu qu'il espère voir. Et verset 50, il dit, mais il est un baptême dont je dois être baptisé et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Le baptême qu'il doit recevoir, C'est ce qui va permettre d'allumer ce feu. Et ce baptême, c'est Jésus qui va être submergé dans la souffrance, qui va être fait péché. Ça lui pèse. Ça préoccupe tout son esprit sur la fin, sur la dernière période de sa vie. C'était tellement présent dans son esprit ce qu'il allait devoir endurer. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devions justice de Dieu. Il est devenu péché, il a reçu tout le péché du monde. Ça a été quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'il a subi, ce baptême, cette douleur, cette souffrance. Hébreux 12, 2, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, pour s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Il a ce baptême, cette chose. Il dit, j'ai envie que ce feu soit allumé, mais je sais qu'il y a quelque chose que je dois endurer avant. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Il amène la division. C'est pas le prince de paix? C'est bizarre. Il y a plein de versets qui parlent de la paix que Jésus va amener, que Jésus va amener une paix dans le monde à la fin. Il peut amener une paix dans la vie des croyants maintenant. Mais tant que le monde est en conflit, il y a cette division qui existe. On le sait. Et c'est la vérité qui divise, c'est la vérité qui fait mal, c'est cette conviction, ce refus d'accepter. Il y a le royaume de Dieu et il y a ceux qui sont contre. Et par rapport au royaume de Dieu, pour nous qui sommes croyants, il y a une division parce que le royaume de Dieu doit devenir notre première appartenance, notre première la chose auquel on donne toute notre loyauté. Ça doit être ça qui prend le dessus, ça doit être ça qui prime, et tout le reste doit devenir secondaire. Et par rapport à ça, tout le reste, ben, il lutte, il veut pas. Paul dit dans Philippiens 3, à partir du verset 7, « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Et vous le savez, mentionner Jésus, parler de Jésus, pour dire qu'on y croit, ça amène des réactions qui ne sont pas positives de la part des gens qui n'y croient pas. Et Jésus, son message n'est pas un message que les gens aiment. Jésus ne dit pas que chacun peut penser ce qu'il veut et ça pose pas de problème. Jésus n'accepte pas l'idée que tous les hommes sont bons. Jésus, il ne dit pas qu'on peut faire ce qu'on veut tant qu'on fait pas de mal aux autres. Jésus, il demande l'obéissance et la loyauté. C'est des idées que les gens n'aiment pas. Dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par le Fils, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui entendent ça et qui grincent des dents. Et 2 Timothée, dans 2 Timothée 3, 12, Paul nous promet d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. On est en division avec le monde, il y a une dissonance, une opposition. Mais on peut avoir une paix quand même. On a une paix avec Dieu avant tout. Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » On peut avoir la paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu. C'est une autre paix. Et ça nous donne une paix, ça doit nous donner une paix avec les autres croyants. Ça doit nous donner une famille. Il y a une division qui s'opère avec peut-être avec notre famille physique, peut-être avec les gens du monde, mais il nous donne une paix avec les autres. On doit devenir un corps ensemble. Verset 54. Il disait encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient et cela arrive. Et quand c'est le vent du sud qui souffle, vous dites, il va faire chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez apprécier l'aspect de la terre et du ciel. Comment pouvez-vous ne pas savoir apprécier ce temps-ci ?» Là, il parle surtout au peuple d'Israël, où il leur dit, « Bon, ben, vous êtes passé maître dans l'art de la météo, mais vous maîtrisez pas la météo spirituelle. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer. Pourtant, dans vos textes, quand on fait l'étude des prophéties dans l'Ancien Testament, on se dit, mais comment ils ont pas pu sentir? Déjà, ils avaient la vie et la présence de Jésus, tout ce qu'il a fait comme miracle, tout ce qu'il a, comment il enseignait, comment il parlait, comment il, et de se dire qu'ils n'avaient pas vu cette chose. Pour nous, je disais, des fois on entend ces conférences sur la prophétie et on a un petit peu un côté un peu, ouais. Mais on doit faire attention aux choses qui arrivent dans le monde, on doit être conscient. Comme je disais, on ne doit pas être surpris par les tournures, les choses qui arrivent, les tournures géopolitiques, les choses par rapport à la religion. Avoir ce discernement et ce point de vue, ça nous permet de nous comporter avec sagesse. On doit pouvoir discerner les tempêtes spirituelles, les mauvaises choses qui vont arriver. Dans un des commentaires que j'ai lu, il y avait une remarque que je trouvais intéressante qui m'a parlé, où il disait que si on regarde l'énergie qu'on a mis pour aller sur la Lune et le nombre de gens qui se posent des questions sur comment aller sur Mars et au-delà, etc. Et combien, enfin, est-ce qu'on met autant d'énergie à se demander comment aller au ciel? On a beaucoup de connaissances dans ce monde, et de plus en plus avec nos moyens technologiques, mais on a moins de sagesse. C'est peut-être une manière de comment je pourrais dire ça? De diagnostiquer certaines situations par rapport à notre monde politique dans le monde occidental. C'est peut-être l'idée qu'on a beaucoup de connaissances, les statistiques, on a l'INSEE, on a les sondages, mais il manque de la sagesse. Et dans cette idée de rester prêt, de savoir que le voleur vient, Jésus nous dit on doit faire des parallèles, on doit voir, on doit se dire que, et on peut regarder, on peut faire des parallèles, on peut passer du temps. Le danger toujours, c'est pas tomber dans l'excès, c'est pas tomber dans le sensationnalisme, de passer sa journée à lire les nouvelles pour trouver l'antéchrist, et trouver les signes, et dire, ça y est, j'ai trouvé. On a des éléments qui nous indiquent, ou qui semblent nous dire qu'on est proche de la fin des temps. Quoi qu'il arrive, on est plus proche de la fin des temps que ne l'étaient les gars qui écrivaient. Hein. 2000 ans et des poussières, si vous comptez le nombre d'heures que ça fait, on est bien avancé, nous. Dieu, le monde pourrait durer encore 1000 ans. Il pourrait remettre les circonstances. Un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. On ne doit pas se dire, ça y est, j'ai trouvé le moment. Mais on doit être prêt comme s'il revenait maintenant. C'est comme ça qu'on doit vivre, et c'est ce que nous dit la Bible, et c'est simple. Et Les gens, souvent, vivent sans attendre son retour et honte à moi et honte à nous quand nous, en tant que chrétiens, on ne vit pas en croyant ce qu'il nous dit, que ça va venir et qu'on doit être prêt. Verset 57. Et pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant un chef, tâche en chemin de te dégager de lui de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te fasse mettre en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé jusqu'au dernier lept. Le lept, c'était une petite monnaie, c'était la dernière petite pièce. Et il leur dit ici, jugez-en vous-même. Vous allez vous tenir devant le juge. L'idée, c'est ça. On va être devant le juge à un moment ou à un autre. Est-ce que vous préférez attendre d'être devant le juge pour que votre cas soit réglé, ou est-ce que vous préférez un constat à l'amiable? Jésus, en quelque sorte, il nous offre un constat à l'amiable. On va se tenir devant Dieu le Père. Il va nous juger et notre cas est indéfendable. On va perdre si on se présente pour se défendre devant Dieu le Père. C'est fini, c'est perdu d'avance. Et Jésus, il vient à nous et il dit, je suis prêt à régler ça avant que tu aies à aller à la cour. C'est un règlement à l'amiable. Plutôt que de devoir envoyer les papiers aux assurances et qu'on se batte pendant des mois pour savoir qui a raison, qui a tort, il dit, vous savez que Dieu le Père, il a raison. Vous pouvez pas vous défendre. Alors, mettez les choses en ordre avant, ne laissez pas traîner. Acceptez ce règlement à l'amiable. L'enfer et le ciel sont des conditions éternelles. Une fois qu'on y est, c'est fini. On doit accepter Jésus. Que dit-elle donc la parole dans Romains 10, pardon, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. On doit mettre notre foi en Jésus pour le salut. Ou alors on va avoir une situation où on va payer jusqu'à la vraiment dernière petite pièce en enfer. On doit être prêt, on doit vivre en étant prêt, on doit être actif. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole. Seigneur, pardonne-moi pour tous ces moments où je me comporte comme si tu ne voyais pas et comme si tu ne revenais pas, Seigneur. Aide-nous à nous encourager, Seigneur, à nous fortifier ensemble, à nous réjouir ensemble de ce retour, qu'il soit maintenant ou dans 500 ans ou dans 1000 ans. Aide-nous à nous réjouir, à investir dans ton royaume, à être ces serviteurs que tu trouves prêts. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Bénis notre temps de communion fraternelle, que nous nous aimions les uns les autres et que nous puissions nous encourager les uns les autres à vivre comme tu le veux, Seigneur. Sois glorifié ce matin, en ton nom nous prions. Amen.